Bonjour à tous. On est toujours au THSF. On est la quatrième journée. Ça commence à tirer, mais ça va. On tient le coup. On est sur le talk show. Oh là là, quel nom. Le talk show. On fait des talk shows à TV Bruit. On en est fiers. Et pour une fois, on va pas parler forcément de quelque chose qui se passe au THSF. On va faire une petite digression avec ces jeunes gens, nos invités. Bonjour. Puisqu'on va parler de lutte étudiante aujourd'hui, et Matt, je vais te laisser prendre le relais du coup pour animer cette interview.
Oui, alors effectivement, Art en lutte, en fait, si, ils participent effectivement au THSF parce qu'on peut voir leurs affiches donc dans un atelier là-bas. Et effectivement, donc ce sont des étudiants donc de l'université du Mirail, du Toulouse Mirail, et puis des Beaux-Arts aussi. Et puis leur enseignant, Raph. Donc, je vais vous laisser vous présenter un peu deux minutes. Donc, vas-y, tu peux prendre un micro. Alors, bonjour. Donc, Cynthia, donc toi, tu es étudiante au Mirail, c'est ça ?
C'est ça, en première année d'art plastique.
Bonjour.
Bonjour.
Et à côté de toi, donc, nous avons Jeanne.
Bonjour. Et moi, je suis étudiante aux Beaux-Arts à Toulouse.
Voilà.
Voilà, et bonjour Raphaël, donc je suis enseignant au Mirail aussi, art plastique, en licence et en master création numérique.
D'accord. Et donc vous avez participé, vous avez un peu monté ce qu'on appelle art en lutte. Donc en quoi ça consiste art en lutte? Qui c'est qui veut en parler pour commencer? Donc Raph, si tu veux.
Oui, je vais commencer. Art en lutte, on a commencé quand l'université a commencé à être bloquée début mars. Et voilà, des étudiants enseignants en art plastique et design, on s'est regroupés, on s'est dit qu'on allait faire des choses, qu'on allait participer à cette mobilisation, mais qu'on allait y participer aussi de manière artistique et créative. Donc là, on a lancé des choses. C'était un petit peu au début hasardeux, on savait pas du tout ce que ça allait donner. Et voilà, on a vraiment dit aux étudiants d'imaginer toutes sortes d'ateliers qu'on pouvait vraiment faire n'importe quoi pour questionner, pour se positionner aussi, pour informer par rapport à la situation, aux réformes. Mais voilà, toujours le faire d'une manière créative quand même pour continuer à apprendre, vraiment essayer de mêler quelque chose qui est engagé avec aussi quelque chose qui va rester aussi pédagogique. On apprend, on s'apprend des choses les uns les autres. C'est parfois même des étudiants qui nous ont appris des choses, parce que les étudiants aussi se sont mis à faire des conférences, se sont mis à faire plein de choses. Donc c'était vraiment... c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, voilà, on a décidé, au bout de quoi, deux semaines à peu près, deux, trois semaines, de s'ouvrir et pas de rester seulement entre départements art plastique design, mais de s'ouvrir à toutes les autres écoles d'art, aux artistes. C'est à partir de là qu'on a contacté les Beaux-Arts, qu'on a rencontré Jeanne, que moi je suis allé aussi voir du côté de Mixart parce que je fais partie du collectif. Voilà un petit peu pour l'historique très rapide de l'art en lutte.
Oui, et donc en fait au niveau de l'université de Toulouse, Jean Jaurès, le Mirail, donc il y a eu un gros mouvement cette année. Donc il y avait deux objets en fait. Donc c'était la lutte contre la loi ORE, c'est ça. Hein. Orientation, recherche et je ne sais plus le...
ORE ?
Ouais.
Orientation, réussite des étudiants.
Réussite des étudiants, voilà. Et donc ça réorganise un peu le passage de l'inscription depuis la terminale, depuis le bac, vers les écoles, universités, enseignement supérieur.
C'est ça, c'est aussi l'instauration d'une nouvelle plateforme d'accès aux études supérieures qui s'appelle Parcoursup, qui remplace l'ancienne plateforme APB, donc admission post-bac. Et dans cette plateforme Parcoursup, l'algorithme diffère. Et on demande aux universités de mettre un nombre de places limite aux filières et de mettre en place des prérequis, donc des fois qui diffèrent totalement de ce qu'on a pu faire au lycée. Et du coup, c'est de la sélection, c'est une mise en place de la sélection sociale et économique des étudiants.
Oui, parce que donc en fait, il y a eu beaucoup d'étudiants qui se sont retrouvés sans aucune inscription validée, donc déjà à la rentrée 2017, non ?
Alors la réalité, c'était que il y a toujours énormément de demandes. Après, admission post-bac était assez bien fait dans le sens où On classait nos vœux et du coup, les universités faisaient leur possible pour accepter les vœux les plus haut classés. Donc il y avait vraiment un respect de la volonté des étudiants, du moins plus qu'avec Parcoursup actuellement, parce qu'il n'y a pas de classement de vœux avec Parcoursup. Et la deuxième chose, et ça a été longtemps critiqué, c'est le tirage au sort. C'est pour ça qu'ils ont voulu remplacer, soi-disant, la plateforme d'APB. Mais il faut savoir que le tirage au sort, ça concernait vraiment 0,9% des étudiants inscrits sur cette plateforme.
D'accord. Mais quand même, il y a effectivement une génération de bacheliers qui est plus nombreuse. Et donc, on attend, il me semble, pour la rentrée 2018, encore 60 000 bacheliers en plus. Donc, c'est curieux comme réaction de la part du gouvernement de vouloir dire « Ben non, on ne va pas les faire rentrer, on les enverra en année sabbatique ou je ne sais quoi. » C'est curieux, quoi. Peut-être que tu veux répondre.
Si. C'est plutôt pour envoyer les élèves faire des choses comme quand tu fais les missions, c'est pour que les élèves travaillent pour moins cher, concrètement.
Ça fait de la main d'œuvre.
C'est pour faire de la main d'œuvre et c'est aussi pour qu'on aille faire des formations courtes, des CAP, des choses comme ça. On n'est pas tous faits pour le CAP. Et en plus, à 17 ans ou 18, on n'est pas encore tous au courant à quel point on veut se spécialiser. Et du coup, il y a plein de gens qui ont envie de tenter une licence parce qu'il y a une des matières qu'on leur enseigne à l'école, qu'ils connaissent, qu'ils ont envie d'approfondir. Et en réalité, ils se font rejeter et du coup, ils sont en train de réfléchir. Bon, alors, je vais faire un CAP agriculture ou alors coiffure ou alors...
Ou alors travailler chez Amazon,
voilà, ouais,
pouvoir comprendre les voies artificielles.
Oui, ou chez Uber aussi, pour aller livrer de la nourriture.
Voilà. Deliveroo, voilà. Là, on pédale, ouais. Galère.
Et effectivement, donc c'est pas très reluisant tout ça. Et donc au Mira, il y avait une autre lutte importante qui était au niveau de la lutte contre la fusion des universités, donc des deux universités et deux grandes écoles, pour obtenir le label IDEX. Hein. Et donc il y a eu une lutte avec une opposition et au final, donc l'ancien président a été mis en opposition parce qu'il n'arrivait pas à réunir son conseil d'administration. Et c'est carrément la ministre qui a en fait démissionné, c'est ça?
Ouais, je vais reprendre vos éléments pour vous répondre. Du coup, la lutte, elle a commencé à mi-décembre lors de la trahison de notre président d'université, de notre ancien président d'université, M. Daniel Lacroix, sur une sorte de référendum qu'il a fait sur le vote de la fusion et du label IDEX, où on s'est prononcé à la grande majorité contre les deux projets. Donc voilà, la mobilisation, elle a commencé comme ça. C'est comme ça qu'on a commencé nos premières assemblées générales, etc. Alors le combat, il a été dur. On a commencé à bloquer notre université dès le 6 mars. Et c'était en gros la période où Daniel Lacroix montait sur Paris pour obtenir le label IDEX. Et il se trouve qu'on a eu un rapport de force à ce moment-là et qu'on a réussi à ne pas l'obtenir. Suite à ça, le 20 mars, effectivement, donc vous le disiez, notre ministre, Madame Frédérique Vidal, a décidé de dissoudre nos conseils centraux et de destituer donc notre président, Monsieur Daniel Lacroix, en le remplaçant par un administrateur provisoire, Monsieur Richard Lagagné, donc qui n'a pas les pouvoirs d'un président d'université, donc ce qui fait que le projet de fusion est toujours dans les tuyaux.
D'accord, oui. Ah oui, le projet de fusion n'est pas complètement écarté, alors.
Non, 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 c'est l'IDEX a été écarté, complètement écarté, le projet Unity 2018, etc. Mais le projet de fusion avec Paul Sabatier, l'Université Capitole s'est retiré du projet, et donc deux grandes écoles, il est toujours dans les tuyaux, il n'a pas été effacé du fait de la destitution de notre président.
Et du coup, il a été nommé. Il y a des élections qui vont se faire ou pas d'un nouveau conseil d'administration ou certainement pas?
Alors,
ça va traîner, ça.
Ouais, ça va traîner, c'est clair. Alors, le but de placer un administrateur provisoire rapidement aussi, ça a été d'organiser de nouvelles élections. Il se trouve que le blocage a continué dans notre université et que la situation est bien différente aujourd'hui avec un calendrier qui presse au niveau des examens. Et donc la question des élections du CA se posera plus peut-être à la rentrée en septembre-octobre. Du moins, c'est sur ça que s'est prononcé notre administrateur provisoire.
Il y a clairement un problème de souveraineté sur la fac du Mirail, en fait. La fac du Mirail, c'est qui le chef ? On voit souvent ça, en fait, hein, donc l'État central qui veut contrôler. On le voit dans de nombreuses luttes, ça. Hein, c'est l'État et puis la base qui se bat, effectivement. Et donc là, on a une assemblée générale qui est complètement l'assemblée générale de la fac, des étudiants et des personnels en lutte, qui est bafouée, qui demande des élections qu'elle n'arrive pas, en fait.
Alors, nos assemblées générales ne réclamaient pas forcément des élections qui se passent de suite. Nous, on les voulait repousser, donc on a gagné sur ça. On les voulait repousser parce que c'était trop difficile de les mettre en place pour le mois de mai, donc le mois actuel. Ce qu'il y avait il y a un temps pour la campagne, etc., et les étudiants n'étaient pas présents sur le campus du fait du blocage. Et donc, au niveau de la démocratie ou quoi, on essaye de faire au mieux et donc on attend qu'il y ait un reflux d'étudiants en septembre-octobre pour que tout le monde puisse se prononcer.
Et donc là, on arrive effectivement à une autre bataille qu'il y a eu, donc entre l'État tout-puissant jacobin français et donc avec l'évacuation de la fac du Mirail, donc qui a eu lieu, donc c'était le 9 mai.
C'est ça, mercredi 9 mai au matin, à 3h30 du matin, les CRS étaient sur le campus. Donc on a eu quelques alertes déjà quelques heures avant. À 1h30, on m'a appelé parce qu'il y a des copains qui faisaient des tours de garde et ils ont croisé 20 camionnettes de CRS garées sur la zone CRS 26 de l'Ardenne. Et une heure après, ces camionnettes avaient disparu. Donc on a commencé à avoir un peu l'alerte à ce moment-là. Et c'est seulement à 3h30 qu'ils sont intervenus. Donc à 3h30, en fait, ils étaient dans nos locaux, face à nous, et nous, on était enchaînés les uns aux autres de l'intérieur avec des gens qui filmaient, etc.
Donc, et du coup, donc tu disais qu'en fait, dans les médias, on a vu les premiers communiqués, hein, donc déjà BFM TV, CNews a annoncé des bandeaux dès le matin, hein, avec la fac évacuée sans heurte. Tout était tranquille, il n'y a pas eu de problème. Est-ce que tu confirmes cette version de BFM ?
Pas du tout, pas du tout. Il y a eu des grosses violences. J'ai une pote qui a été étranglée par un CRS. Donc après, elle a été relâchée, mais sur le coup, je sais qu'elle est traumatisée aujourd'hui. J'ai des potes qui se sont fait prendre des coups de matraque. Je me suis fait prendre des coups de bouclier. Des insultes, des menaces, des gestes sexistes, d'invitations sexuelles un peu étranges. Et ouais, de la violence. Une fois qu'on était sortis du bâtiment accueil, ils nous ont poussés jusqu'au métro. Et donc là, c'était grosse bousculade. J'ai des potes qui ont fini à terre aussi. J'ai fini à terre aussi pour ma part. Et des gros coups de bouclier, ils nous poussaient violemment, ils nous insultaient en même temps. Ceux qui ne voulaient pas avancer, ils les matraquaient. Après, donc, on est arrivé au métro, on a pris le métro, on est allé rejoindre la gare. Parce que du coup, les cheminots nous avaient donné leur accord. En cas d'intervention policière, on pouvait trouver refuge à la gare. Et donc, on est allé à la gare, il était aux alentours de 5h30 du matin. Et la BAC nous attendait là-bas. Donc ils avaient des flashballs et ils nous visaient à bout portant. Ils avaient des bombes de désencerclement, dont une qui a explosé, mais je vais en venir après. Et ils avaient des gaz lacrymogènes. Du coup, dès qu'on est arrivé là-bas, il y a un étudiant qui a été pris à partie. Il a été tiré par les cheveux, mis à terre, un peu fracassé sur le sol à ce moment-là. Du coup, nous, on s'est interposés. Ils nous ont gazés à ce moment-là pour nous disperser. Et là, on a entendu une détonation, une grosse détonation. Et c'est une bombe de désencerclement qui avait explosé au niveau de son thorax, au niveau du thorax de l'étudiant. Alors, de ce que disent les médias, c'est un accident de la police. Voilà, la bombe a explosé entre un policier et l'étudiant. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est l'étudiant qui est grièvement blessé, qui est à l'hôpital et qui a des problèmes, qui a du sang dans les poumons, qui ne peut pas se faire opérer pour l'instant parce qu'il y a trop de risques. Vendredi passé, on a fait un rassemblement en soutien à notre camarade.
D'accord. Et donc, il y a une autre action qui est prévue pour le soutenir, peut-être, dans les jours qui viennent, pas encore.
Bah, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles de son état de santé. Ouais. On sait qu'il est dans les soins intensifs. On sait qu'il a des balafres plein le visage. On sait qu'il a les côtes cassées. On sait qu'il est dans un état, pour l'instant, pas récupérable. Mais on sait aussi que, de ce que j'ai compris, il a été inculpé pour des dégradations diverses. Et qu'en gros, il est en garde à vue. Et qu'en gros, sa garde à vue reprendra quand il sera en état.
Ah oui, d'accord.
Donc, on réclame le fait qu'il soit considéré comme une victime tout d'abord, plutôt que faiseur de faits.
Oui, oui, en effet, oui.
C'est un gros coup de pression de la part de la police et donc de l'État. Comment ça joue sur la mobilisation aujourd'hui, là, cette évacuation, cette personne blessée, du coup, est-ce que vous arrivez à mesurer ça aujourd'hui ?
Alors, on a tenu une assemblée générale donc le mercredi même, parce que c'est ce qui a été prévu. Et du coup, on ne l'a pas tenu à la fac du Mirail, on l'a tenu sur la place du Capitole. Symboliquement, c'était un lieu de passage dans Toulouse, etc. Et du coup, lors de cette assemblée générale, on a voté le fait de continuer à se rassembler dans des lieux publics, tant que nous, notre fac, on ne nous l'avait pas rendu. Alors, c'est clair que moralement, on prend tous un coup, une évacuation, c'est pas facile à vivre. Moi, la première, j'ai du mal à m'en remettre, mais c'est surtout des potes qui ont été violentés plus que moi, qui ont des coups dans le dos, qui ont mal. Et moralement, bah, c'est violent. Déjà, c'est violent de voir des flics sur la fac. C'est pas le lieu, quoi. Enfin, on faisait rien de mal, on vivait, en fait. Il y a des images qui circulent comme quoi tout était cassé, mais ça, c'était clairement les flics. Je vois pas l'intérêt de casser sur notre lieu de vie, en fait. Et je pense que les gens doivent avoir un minimum de discernement par rapport à ça. Tout se passait très bien, on logeait des demandeurs d'asile, on en logeait 45. Il se trouve qu'on a trouvé des solutions de dernière minute, une fois qu'on a eu l'alerte, donc une semaine avant. On a pu tous les loger, tous les mettre en sécurité. Et déjà, ça nous a pas mal soulagés parce que c'était le gros risque. Avec les associations avec lesquelles on travaillait ou quoi, c'était la grosse problématique, quoi. On essayait de trouver des solutions, de plans ou quoi, pour les évacuer ou quoi. Mais du coup, ce soir-là, ils n'étaient pas sur la fac. Donc, c'était un bon soulagement. Et du coup, on continue à travailler avec ces associations. Et je crois que ça nous laisse toujours dans le bain de la mobilisation, parce qu'on est toujours dans cette logique de convergence des luttes, mais aussi, vu qu'on a fait un lien avec des associations d'un point de vue humanitaire, on continue dans ce sens-là, quoi.
Oui, donc je voulais en revenir donc, au niveau des Beaux-Arts. Donc, vous avez essayé de mobiliser un peu les étudiants des Beaux-Arts, bon, c'est pas forcément évident. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez fait, vous, au niveau des Beaux-Arts ? Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Alors, pour commencer, on a fait un peu d'information, déjà, pour reparler de la loi, parce qu'en fait, nous, aux Beaux-Arts, on dépend du ministère de la Culture et pas du ministère de l'Éducation. Donc, on n'est pas touchés par les mêmes choses. Du coup, on a fait de l'information. Ensuite, on a invité des gens à venir avec moi au Mirail, aux ateliers Art en Lutte, ne serait-ce que pour discuter, parce qu'il y a des gens de partout, même aussi de la ZAD, qui viennent pour d'autres motifs de lutte, qui venaient assister à cette journée-là où il y avait des conférences, des ateliers, tout ça. Donc moi, ma première démarche était d'essayer de faire venir les gens. Et puis ensuite, il y a des petites choses qui se sont mises en place. Par exemple, on a, à la suite d'une discussion, on a eu des idées de dessin, d'affiches de sérigraphie qu'on s'est notées et en fait ensuite plusieurs personnes, je leur avais donné mon mail, m'ont envoyé des affiches que moi j'ai pu tirer à l'école parce qu'au Beaux-Arts du coup on a des moyens en fait qui n'étaient pas disponibles au Mirail, des machines et tout ça, et du coup je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de venir d'en faire pas mal, de se les dispatcher par groupe et que le soir, chacun son quartier, chacun habite dans un coin de Toulouse, elles apparaissent comme ça sur les abribus, près des stations de métro, enfin là où il y a du passage, pour à la fois faire un peu de provoque, un peu d'information et en même temps juste susciter l'attention en fait. Parce que cette loi-là, elle touche beaucoup de monde et c'est vrai que bon, on n'écoute pas trop TF1. Je comprends qu'il y ait un peu un blocage, un tri dans l'information, vu qu'il y a beaucoup d'informations autour de nous. Du coup, là, ce qu'on essaie de faire avec des petits visuels et des punchlines, on va dire, assez drôles, on essaie de susciter l'attention, en fait. Parce que même les gens qui se disent « Oh, mais moi, mais j'ai plus d'études à faire, j'ai 40 ans. » Oui, mais t'as des enfants, t'as des cousins, t'as... Donc voilà, le but, c'était d'essayer de faire susciter l'attention surtout. Et puis ensuite, après ça, avec plusieurs élèves, on a récupéré... On s'est fait donner un bout de lino de 4 mètres par 2 mètres 40. Et en fait, on a écrit un message officiel qu'on a affiché sur l'école pendant tout le temps des vacances. Parce que du coup, l'école des Beaux-Arts n'est pas bloquée. Mais on est quand même beaucoup à avoir de la sympathie pour ce qui se passe au Mirail et à y être passé vite fait sans pouvoir s'investir tout le temps parce qu'il y a des diplômes, etc. Mais du coup, on avait envie de marquer le coup, en fait, parce que l'école, elle est en plein centre de Toulouse. Elle est tout près de la Dorade, qui est une esplanade où il y a plein de touristes, etc., qui viennent. Donc il y a beaucoup, beaucoup de passages. Et donc le message sur la banderole, c'était « Protégeons le service public. L'Institut supérieur des arts de Toulouse, ses enseignants et ses étudiants soutiennent les luttes du Mirail ainsi que leurs objectifs. » Et donc ça, ça faisait 4 mètres par 2 mètres 40. Et on l'a posé, du coup, il n'y a pas non plus de directeur officiel aux Beaux-Arts de Toulouse. Donc, du coup, on l'a posé plus ou moins. On avait essayé d'en avertir à peu près la direction, qui était assez, on va dire, open oralement, mais qui ensuite n'a plus jamais répondu à nos mails, parce que les mails, c'est officiel, on en a des traces. Donc, surtout pas qu'on ait de réponse officielle. Donc, du coup, nous, on a pris parti de prendre les clés de la salle et d'aller accrocher la banderole quand même. Et en fait, ça... Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que là, dans l'école des Beaux-Arts, il y a pas mal de professeurs qui sont qui soutiennent les luttes. Et il y a pas mal aussi de gens qui font partie de l'administration. Mais comme on n'a pas de directeur et qu'on n'a pas de porte-parole qui voulait se porter garant, on a été obligé de faire de la pseudo-légalité, illégalité, en fait. Et c'est le gros problème aussi, c'est compliqué d'organiser des AG quand voilà, on est obligé de les faire dans la cour, on n'a pas les clés de l'amphi ou des choses comme ça, quoi. Donc on a essayé de faire des petites choses à nos moyens, avec, surtout dans le domaine artistique du coup, et dans le centre en fait. Essayer aussi, on est allé discuter avec des gens auprès du lycée, voilà, des petites choses, mais surtout pour informer en fait, parce que c'est marrant de regarder les occupations à la télé, que ce soit Nantes, Lyon, machin, tout ça, mais il faudrait quand même se poser la question de pourquoi il y a plein d'étudiants qui sont là, « Hé, on fait grève, on va occuper cet endroit, il faudrait aller un peu plus loin » que de regarder ce qu'il y a dans les médias, on va dire, prépondérants, quoi. Genre TF1 et M6. Du coup, voilà.
Et BFM.
Oui, et donc, il y a l'école nationale, l'ESAV, en fait, l'école d'audiovisuel aussi, qui est... Donc, il y a les personnels qui sont en grève aussi, et les étudiants. Et donc, il y a eu quelques AG interlutes aussi, donc, à suivre tout ça, je pense... voilà, donc on va mettre des liens aussi à Internet. Il y a un Tumblr aussi qui est déjà créé par les étudiants de l'ESAV. Et voilà.
Et du coup, votre expérience ici au THSF se passe comment ? Est-ce que les gens que vous rencontrez sont au courant de ces luttes ? Qu'est-ce qu'ils en savent ? Et qu'est-ce que ça vous permet de leur apprendre peut-être ? Je ne sais pas comment ça se passe.
Oui, bah alors moi je trouve que ça s'est très bien passé. Après, ça faisait quand même, moi en tant qu'artiste aussi à Mixart, ça faisait quand même un mois que je venais aux AG pour parler de Art en Lutte, parler de la situation au Mirail, parler de ce qui se passait là-bas. Et globalement, voilà, on avait beaucoup d'encouragement, beaucoup de soutien de la part des personnes de Mixart. Et bon, il se trouve que au moment où la fac a été évacuée par les CRS, le THSF commençait à ce moment-là. Donc je me suis dit, c'est une très bonne occasion pour délocaliser nos ateliers et venir s'installer à Mixart Miris. Après, moi, c'est vrai que le THSF, dans tout le cas, c'est un festival que j'apprécie énormément. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses au niveau du militantisme, voilà, que ce soit par rapport au logiciel libre, aux technologies plus généralement. Enfin, je sais que dans tous les cas, c'est un endroit où je voulais aller. Et je pense que voilà, faire un stand et faire des ateliers Art en Lutte à Mixar, ça a permis aussi de rencontrer énormément de monde. On a distribué beaucoup d'affiches, on a rencontré des gens d'un petit peu partout. Et ça, vraiment, c'était une très bonne expérience pour ça.
Cool. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, peut-être dans ce désir de contre-information par rapport aux médias de masse, on va vous laisser aussi la libre parole. Je ne sais pas si vous voulez rajouter sur quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, que nous, on n'aurait pas pensé dire ou évoquer par rapport à ce sujet vaste, mais ce n'est pas obligé non plus.
Bah, moi, je pense en tout cas que c'est vraiment, pour revenir sur Art en Lutte, sur les affiches, que voilà, c'est important de marquer les gens, marquer les esprits aussi par des choses comme ça, qui vont être aussi visuelles, qui vont être artistiques, qui vont toucher autrement que par des textes sur des tracts. Je pense que c'est important d'attirer aussi les personnes, tout le monde. Enfin, après, ça va dépendre des affiches, de ce qu'on montre. Il va y avoir des choses qui sont plus réservées à des personnes qui connaissent un petit peu déjà. Des fois, les affiches, c'est un peu des petites blagues aussi entre nous. Mais les personnes qui sont à l'université ou qui ont fait des études d'art vont vite comprendre ce qui se passe. Après, il y a d'autres affiches qui vont être plus, qui vont plus parler d'elles-mêmes, comme les Trump et Macron, voilà, qui forment le petit couple.
Qui est derrière vous.
Voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut parler vraiment à n'importe qui pour montrer voilà, qu'on dénonce un peu cette politique-là du président qui va vraiment dans des directions qui ne nous correspondent pas vraiment, ce modèle américain, les modèles anglais aussi, vraiment, qui sont axés voilà, sur cette productivité, la consommation, le flicage.
L'employabilité,
voilà. Et ça, vraiment, c'est ce qu'ils essayent de faire arriver dans les facs aussi, parce qu'on veut vraiment, enfin, ils veulent vraiment rendre les universités rentables, mais surtout, ils veulent qu'elles fonctionnent comme des entreprises, voilà, qu'il y ait des management, qu'il y ait des choses comme ça, plein de logiques d'entreprises qui viennent dans les facs pour essayer de gagner des places sur ce classement de Shanghai, qui est un classement mondial. Basé sur ce principe d'excellence. Donc l'idée, il faut être excellent, il faut être toujours un petit peu meilleur que les autres. Pour ça, faut un petit peu plus écraser les autres aussi. Enfin, c'est vraiment un modèle qui nous correspond pas. En fait, on veut pas aller vers ça, et c'est pour ça, voilà, vraiment qu'on essaye de s'exprimer et passer aussi par la rue pour s'exprimer, parce que voilà, c'est aussi un moyen qui, je pense, en tant qu'artiste, en tant qu'étudiant artiste, c'est quelque chose qui va nous toucher aussi, parce que ça va rejoindre des choses comme le street art, l'art dans l'espace public, des choses qui sont vraiment très intéressantes, il me semble, vraiment d'un point de vue artistique comme d'un point de vue politique.
On s'arrête là ?
Ouais, je veux juste conclure par le fait qu'on parle beaucoup de convergence des luttes ou autre, de production, de ce qu'on peut faire ou autre, mais... Enfin, moi, j'ai appris un truc dans cette mobilisation ou dans les festivals ou à Mixart ou autre, c'est la convergence des gens et c'est les convergences des expériences humaines, etc. Et c'est vraiment... Enfin, j'invite à continuer à créer des lieux de rencontre comme ça, que ce soit des mobilisations, des causes, défendre des convictions, défendre des faire des choses créatives ou autres et... continuer à créer des lieux de rencontre pour tous, quoi.
Merci. Et on essaiera de rester présent dans cette lutte-là aussi à TV Bruit et de suivre au plus près tout ce qui se passe pour pouvoir relayer tout ça. Et n'hésitez pas à nous renvoyer aussi des images, des informations et tout ça pour qu'on puisse les diffuser et les publier. Merci beaucoup. À vous.
Merci. Merci.
We'll be right back.